Message. Hop. Alors, j'ai passé beaucoup de temps à préparer cette prédication, et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je n'ai aucune prédication. J'ai beau avoir passé beaucoup de temps, chercher Dieu, prier, n'y avait rien. Mais beaucoup de bons moments avec Dieu. Et alors qu'on rentrait de la mer avec les enfants, on avait pris âme. Et puis j'étais fatigué, j'avais mal à la tête, et je me suis allongé à l'arrière de la voiture, j'ai dit, je vais faire un petit somme. Et là, tout est arrivé. Et je dis, waouh, le Saint-Esprit parle encore. Et alors que le Saint-Esprit m'a parlé, quand je vous dis que j'ai pas de prédication, c'est tout simplement que j'ai pas d'introduction, j'ai pas de grand 1, j'ai pas de grand 2, j'ai pas de 3, j'ai aucune conclusion. Tout ce que j'ai, c'est ces trois points que Dieu m'a donné pour ce matin, sur un ticket de caisse, écrit et reçu dans ma voiture. Alors, ce qu'on va recevoir ce matin, c'est quelques encouragements. Parce que je pense que vraiment Dieu veut nous parler ce matin. Et alors, je vais dire beaucoup de choses, soyez attentifs, parce que peut-être que je m'en rappellerai plus à la fin du culte. Donc, il ne faudra pas me demander de me répéter. On va laisser le Saint-Esprit nous guider. Alors, Antonia, est-ce que tu peux venir ici? J'étais pas à l'intercession ce matin, mais je sais qu'ils ont prié, qu'ils ont reçu des choses. Alors, on a besoin d'entendre ce que Dieu a dit. Oui.
Ces choses. Et ce matin, Dieu nous a rappelé qu'il fallait se souvenir de ce qu'il avait dit et les proclamer. Et en les proclamant, on va les voir s'accomplir. Et cette année, on doit l'appréhender comme ça, avec un esprit de victoire, avec un esprit de proclamation. Ce que Dieu a dit, c'est seulement ce qu'on va proclamer et pas ce que l'ennemi nous dit ou ce que nous, on pense être bon. Donc, il y a d'autres choses, mais voilà. On
Merci,
laisse le reste
Antonia.
pour le culte.
Donc voilà. On a reçu ça, maintenant, je vais vous dire ce que moi j'ai reçu. Antonia, reviens là, est-ce que tu peux prier pour moi, pour ce matin, pour le culte, pour nos cœurs, pour ce que tu as reçu justement? C'est important, hein?
Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Toute cette matinée, on n'arrête pas de dire que tu es fidèle et tu es bon. Merci parce que tu as prévu quelque chose pour nous cette matinée. Tu as prévu quelque chose à faire avec Alex ce matin, Seigneur. Et Père, merci pour une onction que tu as déjà déposée sur lui. Et merci pour ton esprit qui s'empare de lui maintenant. Alors que je prie, Seigneur, tu viens et tu commences à lui souffler des paroles qui vont apporter la vie, qui vont apporter l'espérance, qui vont apporter des révélations dans les cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen. Saint-Esprit, encore, on t'invite ce matin. Simplement parce que tu es notre guide. Et si on est là, Seigneur, ce n'est pas pour entendre quelqu'un parler, entendre quelqu'un chanter, Seigneur, mais c'est vraiment, Seigneur, pour être à ton écoute. Et en ce début d'année, je veux vraiment, Seigneur, que tu nous parles. Vraiment, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, Seigneur. Amen. Alors, justement, en parlant de choses nouvelles, en début d'année, on aime bien faire des, comment on appelle ça, des nouvelles résolutions, des nouvelles résolutions. Alors, quand on prend une nouvelle résolution, souvent elle est bonne, elle est pour le mieux, elle n'est pas pour, on ne prend pas une résolution pour se dire cette année je vais être moins bon que l'année passée. On se dit, bon, cette année, je cible un défaut dans ma vie ou je cible quelque chose où je sais que je peux évoluer et puis je vais y travailler. Et alors, mon premier encouragement, ce sera sur le changement. Est-ce que le changement est réellement facile? Quand tu cibles quelque chose dans ta vie, est-ce que finalement tu y arrives facilement? Est-ce que c'est quelque chose, allez, tu te dis, bon, c'est vrai que je dois être meilleur là, et puis instantanément, tu es quelqu'un qui vit les choses mieux ou qui change facilement. On est tous confrontés à des changements, mais souvent, comme Fred le disait, l'année passée, il y a eu des changements dans sa vie, mais il ne les avait pas décidés. Ça a été dur pour lui. Christ, ça a été dur pour lui. Et il y a certains changements qu'on fait parce qu'on a envie d'être meilleur. Et alors, quand on réfléchit un peu plus longuement sur ça, on peut constater qu'il y a une loi dans notre cœur, qui régit notre cœur. Il y a une loi tout à fait particulière. Et cette loi-là, ça s'appelle la loi du péché. Vous dites, waouh, c'est différent ce qu'il nous dit. Oui, c'est la loi du péché, parce qu'on sait très bien que au moment où Ève et Adam ont cédé, qu'est-ce qui s'est passé ? On a remis les droits qu'on avait sur notre propre vie, on a remis l'autorité que Dieu nous avait donnée sur notre propre vie, on l'a remis à Satan. Et lui, jamais il a décidé de dire, bon, je vais leur rendre. Je vais leur rendre les droits qu'ils ont sur leur propre vie. Et ce qui se passe quand on veut faire un choix, quand on veut faire un changement dans notre vie, s'il est positif, tu vas être confronté à tout ce que ton corps ne veut pas changer, tout ce que ta tête ne veut pas changer, à cette loi qui est aussi forte finalement que la loi de la pesanteur qui fait que je me tiens sur cette estrade. C'est fort en toi, tu veux changer, mais c'est difficile. Et tu rencontres des difficultés. De la même manière, mettons quelqu'un qui est frustré, qui a été complètement brisé dans son être intérieur, il va faire le choix de dire, bon, maintenant c'est fini, je m'occupe plus de personne. Et il décide de faire ce choix qui va l'amener plus vers le bas. Et là, vous pouvez constater que quand vous faites un choix comme ça, eh ben, très vite vous plongez. Là, le choix, il est facile. Là, le changement, il est facile. Vous devenez vite, votre cœur, il devient vite aride. Il devient très vite sec. Mais là, vous avez une autre confrontation qui n'est plus la confrontation de cette loi régie par le péché dans votre vie, mais c'est votre conscience qui vous dit « Ouais, mais t'es comme ça, mais finalement, est-ce que c'est vraiment bien ?» Et tu commences à enterrer ça, t'enterres ça, et puis tu sombres là-dedans. Donc moi, je conclue que le changement, il n'est pas facile. Il n'est pas évident. Il y a une loi dans mon cœur qui fait que c'est difficile. Et en tant que chrétien, finalement, la Bible nous dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de promesses. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit, Antonia, parce que je vais vous rappeler quelques promesses de la Bible qui nous parlent de ça. Alors, Rebecca, est-ce que tu peux me donner le premier, on va commencer par celui-ci, Jérémie, chapitre 17, versets 5 et 9. On ne va pas tous les lire. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. On voit que, waouh, en l'homme, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel. Hein. Une terre brûlée, des lieux déserts. Alors, béni soit l'homme maintenant qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Et maintenant, le verset clé, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? C'est la version Louis II, ça. Hein ? Le cœur est tortueux par-dessus tout et qui peut le connaître ? Et moi, dans ma version, j'ai le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. Moi, je lis ça, c'est Dieu qui parle au travers du prophète Jérémie et qui dit que le cœur de l'homme est quoi ? Est incurable. Waouh, ça veut dire que cette loi qui pèse dans ma vie, il n'y a aucune solution. Incurable, et il est incurable. Voilà, c'était le verset 19. Alors, incurable. C'est-à-dire que finalement, l'homme n'a aucune solution pour son mal-être. Strictement aucune. L'homme ne peut rien faire pour lui-même. Il peut être déterminé autant qu'il veut pour changer, pour être mieux, mais finalement, ce sera peut-être juste un petit peu mieux. Tu seras juste peut-être un petit peu mieux. Tu vivras les choses un petit peu mieux. Mais le cœur est incurable. Waouh ! Une maladie qui nous ronge de l'intérieur et qui est incurable. Et ça, c'est la loi de notre cœur. Et on a besoin de connaître la loi de notre cœur pour comprendre comment Dieu peut agir, lui. Alors nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui se passe ? On va mettre maintenant Ézéchiel 36, versets 26 à 27. Et là, Dieu va parler au travers du prophète à son peuple. Et on va voir que cette parole nous revient aussi de droit. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de... Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observerez et pratiquiez mes lois. » Alors, je vous donnerai un cœur nouveau. Et là, c'est intéressant parce que cette prophétie va nous parler de quoi ? De notre Jésus qui va venir, qui devient cette solution. Alors que nous, on n'avait aucune solution, Jésus vient et il devient la solution pour nous. Il devient la cure. Mais il n'y a jamais été question de te rendre mieux. On aime bien dire, Jésus fait de moi un homme meilleur. C'est pas ça, Jésus, il fait pas de toi un homme meilleur. Il écrit quoi ? Il dit qu'il va donner un cœur nouveau. Le cœur qui était mauvais, il l'enlève, incurable, et maintenant il vient mettre un cœur nouveau. Et ça, c'est différent. On ne parle pas juste d'un petit changement, d'une béquille spirituelle qui fait que bah, on est chrétien, on se sent mieux, mais on parle d'une transformation. Une transformation. Une transformation, c'est différent d'un... C'est un changement exceptionnel. C'est différent de juste quelque chose qui peut aller mieux. Jésus n'est pas venu juste pour te rendre mieux. Il est venu pour te transformer. Et ce matin, mon premier point, la première chose que j'ai reçue, c'est l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance. Et moi, quand je lis ces versets-là, je comprends que l'évangile est une puissance. Alors que j'étais capable de rien, maintenant, mon Dieu, l'évangile fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Et premier encouragement que j'aimerais vous donner, c'est souviens-toi que l'évangile est une puissance. On parle beaucoup de nos problèmes, on parle beaucoup de ce qui ne va pas, de nos années difficiles, de ce qui est dur, mais l'évangile est une puissance. Quoi que tu fasses pour changer, il n'y a rien qui changera vraiment. Tu as besoin d'une transformation. Et j'aimerais vous parler maintenant de cet homme en Marc, je ne t'ai pas donné le verset, Rebecca, tu n'as pas besoin de le mettre, vous connaissez cette histoire. Marc 5, verset 1 à plus ou moins 19. Il y a Jésus qui vient, il traverse le lac et puis il rencontre quoi ? Un homme avec un esprit. Et il écrit que cet homme va venir à la rencontre de Jésus. Et on nous dit que cet homme était lié et qu'il tirait ses liens et qu'il vivait parmi les tombes. Alors imaginez cette situation aujourd'hui. Actualisez cette situation. Si tu marches quelque part près d'un cimetière et tu vois un homme qui vient vers toi, qui se tape comme ça. Mais on n'en voit plus des gens comme ça, ces gens-là. Leur seul traitement qu'on leur a donné, c'est quoi ? C'est des médicaments, et puis on les endort, et puis on n'a aucune solution pour eux. Et là, il y a cet homme-là qui arrive vers Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il commence à parler à l'esprit qui est en lui, et il le libère. Et le verset, je pense c'est 15, nous dira, c'est Marc 5, nous dira que on retrouve ensuite cet homme à côté de Jésus, habillé et saint d'esprit. Alors que la Bible nous dit que les gens venaient pour l'attacher parce qu'on n'avait pas de solution. La seule solution qu'on avait, c'était on va l'attacher pour pas qu'il se fasse du mal. On disait qu'il criait. Il criait et il se frappait lui-même. Il se faisait du mal. Et la seule solution, c'était on va l'attacher. Aujourd'hui, on fait la même chose. On attache les gens, on les gave de médicaments, mais on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Et Jésus, lui, il vient vers cet homme et instantanément, il y a une transformation. Et la rencontre avec Jésus automatiquement amène à une transformation totale, un changement de cœur. Là où nous, on n'a plus de solution, Dieu a une solution réelle. Alors ça, c'est mon premier point. L'évangile est une puissance. La Bible dira aussi qu'on est une nouvelle créature. Ça vient de là, ça, on est une nouvelle créature. Et si l'évangile est une puissance, on va lire ce verset où Paul va nous dire que dans Romains 1, verset 16, tu peux le projeter, Rebecca, Paul dira « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il y a la notion de foi, on ne va pas parler de la notion de foi, mais « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. » C'est entre guillemets la définition de l'évangile. On sait que l'évangile, c'est Jésus, bababa. Mais dans ce que Jésus a accompli, il y a une puissance. Et c'est ce que Paul nous rappelle, et c'est ce que j'aimerais vous rappeler. L'évangile est une puissance. Si on enlève la puissance à l'évangile, c'est comme si vous enleviez l'oxygène à un feu. Vous avez beau avoir le combustible, s'il n'y a pas d'oxygène, le feu meurt. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le feu meurt. Et souvent, on est des chrétiens comme ça. On a le combustible, on a tout pour bien vivre, pour être enflammé pour Dieu, mais il n'y a pas d'oxygène. Et l'oxygène, on va pouvoir assimiler ça à l'Esprit de Dieu. Parce que si vous vous souvenez, dans Ézéchiel, la promesse, c'est qu'il nous donnera un cœur nouveau, qui changera notre cœur de pierre en cœur de chair et qui mettra sur nous un esprit nouveau. Ça fait beaucoup de choses nouvelles. C'est-à-dire que l'homme que j'étais avant n'existe plus du tout. Plus du tout. Un esprit nouveau, un cœur nouveau, il n'y a plus que mon corps qui est là. Et la seule chose sur laquelle Satan a encore des droits, quelque part, c'est sur notre corps qui est faillible. Et il va nous attaquer dans nos faiblesses. On va être malade. Tout ceci, mais maintenant nous avons récupéré cette autorité en Jésus-Christ. Alors, Paul dira, l'évangile est une puissance. Rappelez-vous ce matin que l'évangile est une puissance. Mon deuxième point, c'est réalité ou fiction. Deuxième point que j'ai reçu, réalité ou fiction. Est-ce que ta vie chrétienne est une réalité avec l'évangile comme puissance ou est-ce que c'est une fiction? Et juste, tu t'attends à des choses et tu es tout le temps en train de parler du futur, mais je m'attends à voir des belles choses pour ma région, je rêve, je machin. Ou est-ce que c'est vraiment vrai? Il se passe des choses de transformation dans ta vie. Parce que, revenons, l'évangile est une puissance. Souviens-toi de ça. Alors, réalité ou fiction? J'interroge ta conscience maintenant. Est-ce que c'est une réalité dans ta vie ou c'est une fiction? Tu t'assois tous les dimanches sur cette chaise et puis ça te fait du bien, mais c'est juste une béquille. Mais c'est pas juste une béquille, l'évangile est réellement une puissance. Jésus est vraiment mort à la croix de Golgotha. Il a vraiment donné sa vie pour moi. Il n'a pas fait semblant, il n'a pas dit mais je vais faire ça juste pour qu'il soit un petit peu mieux. Je veux qu'il soit transformé. Je veux que ce soit des personnes nouvelles. Mais la transformation, elle va t'épurer et elle va te faire mal. Et alors, si on entame cette année 2016, moi je pense qu'une de nos résolutions, c'est de pouvoir dire « Seigneur, j'accepte ta transformation. Si tu as quelque chose à transformer maintenant, transforme-le maintenant. » Parce que souvent on attend, on est là, c'est vrai que je dois faire un effort sur mon caractère, je dois faire un effort, ça dure des années. On galère, on est ces chrétiens qui, tout dure 6 mois avant de régler un problème dans notre vie, et puis c'est un gros péché immaquable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours compliqué. Mais moi, quand je lis la Bible, c'est pas compliqué. L'évangile est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nous. Il a pris nos péchés. Et aujourd'hui, il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et ça peut durer 30 secondes. La clé, c'est de dire, Seigneur, je viens honnêtement. Je reconnais mes soucis, je reconnais qui je suis, je reconnais que j'ai pu pécher, je reconnais que c'est pas facile, je reconnais que j'ai lutté pendant longtemps. Mais maintenant, je viens honnêtement et fais ce que tu as à faire de moi. On aime bien dire « je m'abandonne », mais « je m'abandonne », c'est-à-dire que toi-même, tu abandonnes le contrôle sur tes propres émotions. Mais alors, ça veut dire que tu n'es plus un chrétien émotionnel, tu n'es plus un chrétien rationnel, tu es un chrétien tout court maintenant. Qui accepte quoi ? Qui accepte de se sacrifier pour l'évangile ? Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous, à nous nous sacrifier pour l'évangile. Et ça fait mal. Et il vaut mieux avoir mal un bon coup et que les choses soient réglées que galérer 6 mois, non ? Vous êtes comme moi, une piqûre, si le médecin y allait tout doucement, il prenait son temps, et puis il tirait un petit peu, il revenait, et puis il tirait un petit peu, et puis il revenait. Ça ferait mal, moi je veux pas ça. Non, il vient, pouf, hop, c'est réglé, le vaccin est administré. Et on a besoin de recevoir l'évangile avec puissance. J'aimerais qu'on se rappelle ça. Réalité ou fiction? Troisième point, Dieu au-dessus des circonstances. C'est pas facile ce que je vous dis, hein, mais il faut arrêter d'être ces chrétiens qui fonctionnent avec des portes d'entrée. On est là, et puis on se dit, bon, je vais vous mimer ça. Je suis là, il y a un chemin. Seigneur, t'es un grand Dieu? Je prie, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi dans cette situation, je ne sais pas quoi faire. Et allez, je fais les démarches là et là, et puis je vais voir là où la porte s'ouvre. On aime bien faire ça, les chrétiens, non? On aime bien les portes. Alors, il y a une porte en chêne, il y a une porte en hêtre, une belle poignée ici, une belle poignée là. Mais... Et on est tout le temps face à cette... La Bible me dit que l'évangile est une puissance, mais là, je vois pas trop de puissance. Hein. Je vois des difficultés, je sais pas quel choix faire. Dans ma tête, ça tourne, mais qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Quelle est sa volonté? Et puis, on remet tout en cause, et il se passe rien du tout. Et arrêtons d'être ces chrétiens avec des portes d'entrée. C'est bien au début, mais après Dieu nous demande une maturité et il nous demande d'entrer dans du discernement et dans la révélation de ce qu'il veut. Parce que si on fonctionne toute notre vie de chrétien comme ça, c'est comme si Dieu était celui qui jette les dés et il est juste le maître du hasard. Vous voyez ce que je veux dire? On jette les dés et lui est le maître du hasard et il décide. Mais moi je veux pas ça. Moi, je veux savoir quel est le chiffre du dé qui va sortir. Je veux la révélation de ce qui va se passer. Ben, c'est ce que la parole nous enseigne. Alors, Dieu au-dessus des circonstances. On aime aussi beaucoup, j'ai remarqué, trouver Dieu dans les circonstances de la vie. Alors que Dieu ne nous a pas parlé, on va regarder les choses, regarder nos défis, nos difficultés, nos failles, et on va dire, ah, si Dieu a fait ça... C'est que là, il voulait me travailler un peu. Et puis, cette circonstance-là a fait que ça. Et ça devient un Dieu de circonstances. Il est juste ce Dieu qui est là, qui gère les circonstances. Et toi, tu ne peux le voir que au travers des circonstances. Mais réagir comme ça, ça limite Dieu encore une fois. Parce que les seules personnes qui peuvent limiter Dieu, c'est nous. Parce que lui, il est pareil. Et alors, c'est comme si on met un filtre. Dieu, tu me parleras que au travers des circonstances. Et une fois de temps en temps, il y a un culte où il y a quelqu'un qui amène un peu de feu, on se dit « Ouais, c'est vrai que Dieu y est peut-être un peu plus. Ce soir, je vais prier un peu plus. Je vais essayer de chercher Dieu un peu plus. » Et puis finalement, une semaine, deux semaines, et tu reviens à ce Dieu de circonstances. Vous voyez ? Et ça, c'est pas l'évangile de puissance. C'est pas l'évangile de puissance. Dieu est au-dessus des circonstances. Au-dessus des circonstances. Comme on peut voir quand Jésus arrive face à cet homme, les circonstances disaient que avec cet homme qui était possédé, on ne pouvait rien faire. C'était ça les circonstances. On l'attachait et puis on cherchait un moyen de le canaliser. Et les circonstances disaient mais vous pouvez rien faire. Mais Jésus y arrive là, il y a une solution. Il est au-dessus de la circonstance. Et dans nos vies aussi, il est au-dessus des circonstances. C'est beaucoup de choses un peu négatives que je dis ce matin. Ne vous inquiétez pas, hein. Peut-être que je dirai un truc un peu mieux après. Alors, quatrième point, Satan atrophie l'Église. Satan atrophie l'Évangile. Avec cette façon d'être et cette façon de penser, on est totalement atrophié. C'est-à-dire que l'Évangile n'a plus de puissance dans notre vie. Et on devient ces chrétiens, encore une fois, qui vivent la chrétienté, qui cherchent Dieu à des moments donnés de leur vie, mais il n'y a pas de puissance, il y a un manque de puissance. Des fois, il y a de la puissance, des fois, il n'y a pas de puissance. Des fois, il y a de l'autorité, des fois, il n'y en a pas. Et c'est fluctuant. C'est une vie spirituelle quand même assez fluctuante. Tu connais beaucoup de choses sur ta Bible, mais il ne se passe pas grand-chose réellement dans ta vie au quotidien. Et c'est comme ça que Satan atrophie l'Église. Il fait que les membres, ils bougent moins bien. Qu'il y a moins de... On perd cette autorité. Et moi, j'aimerais qu'on puisse se rappeler pour cette année 2016 que l'Évangile est une puissance, qu'il faut être au-dessus des circonstances, que Satan est là pour nous endormir constamment, qu'on doit être sur la brèche, on doit se tenir dans la prière, on doit avoir une vision, se tenir à notre vision, chercher Dieu réellement, s'attendre à la puissance de Dieu. C'est pas juste un dimanche sur deux, c'est tout le temps. Ici, il y a trop de personnes qui sont passées cette année et qui ont été un petit peu touchées. Et Satan est venu voler ce qu'il avait commencé de faire. Satan est venu voler, dérober tout le travail qu'on a fait. Quand on a cherché Dieu, quand on a prié, quand on était à genoux, quand on est allé dans la rue, partager l'évangile. Et les gens viennent là et Satan vient voler. Moi, ça me va plus du tout. Que ce soit une année nouvelle. Et ce que je recevais, que ce soit une année nouvelle, une année de changement, il faut que ces choses-là changent, qu'on ait l'autorité totale sur les choses, l'autorité sur nos corps. Ton corps va te tirer vers le bas, maintenant j'ai l'autorité sur mon corps. Vous comprenez ça? C'est un cœur nouveau, c'est une mentalité nouvelle. Sonia, tu es sceptique. Et alors, pour revenir à cet homme, dans Marc 5, on voit que c'était un homme qui était possédé d'un esprit. Alors, quand on lit cette histoire, on aime bien s'attarder sur les cochons et tout ça. Mais dans cette histoire, on voit que cet homme est possédé. Cet homme se blesse lui-même. Et on se dit, mais ça, ce n'est pas une situation dans laquelle je suis. Oui, c'est possédé, c'est un gros truc. Hein. Moi, je ne suis pas possédé. Mais vous savez, on a beaucoup de choses dans notre vie où on est autant possédé que cet homme-là. Autant. Et on se fait du mal à nous-mêmes. Quand tu as un caractère qui facilement tombe dans le trou avec des frustrations, tu te fais du mal à toi-même. Ton âme, elle est en train de crier « j'ai mal ». Quand tu n'arrives pas à arrêter une addiction parce que tu te bats toujours avec, tu fumes toujours ta cigarette, tu te fais du mal à toi-même. Et lui, il est allé vers Jésus. Il faut qu'on aille vers Jésus, mais qu'on soit honnête avec un cœur nouveau. Ce n'est pas philosophique ce que je vous dis, c'est une vérité. S'abandonner vraiment, à 100%. Antonia, à 100%. Alors, l'année, on a décidé avec Antonia que le niveau spirituel a vraiment descendu dans les réunions d'intercession. Je me permets de vous le dire parce que ça ne prie pas. Et on a besoin de prier plus. Et ça ne va pas du tout. Et on a décidé qu'en janvier, on allait commencer des réunions de réveil. On va prier pour notre quartier. On va prier pour les âmes qui sont dehors. On va prier que pour ça, que pour ça, que pour ça, que pour ça, jusqu'à ce que Dieu se manifeste. On va entrer dans un combat. On va arrêter de penser à soi. Dieu va changer ta mentalité. Il va changer ton cœur. Il a déjà été changé ton cœur. Mais le problème, c'est que si tu te souviens, au début, tu étais tout feu, tout flamme avec Dieu. Mais après, les choses de la vie, ton quotidien commence à t'endormir. Et on ne veut pas se laisser endormir. Ça marche? Et cet homme-là qui était dans la tombe, il était tout seul. Pas de famille, pas d'amis. Personne pour l'aider, mais Jésus est venu. Et après, on peut voir quoi? On peut voir que cet homme a commencé, tout le monde était étonné, il a commencé à parler de Jésus autour de lui. Et les gens étaient étonnés de ce qui se passait. Surprenant. Arrêtons de prendre des petits miracles pour des grands miracles. Ça aussi, hein, nous les chrétiens, on aime bien. Un miracle est un miracle. Il faut être clair maintenant. Un miracle est un miracle. Quand Dieu nous aide et tout ça, voilà, c'est bien. Mais un miracle est un miracle. Si la Bible nous parle de miracles, ce n'est pas des miracles moins 50% ou moins 70%. Ce n'est pas les soldes chez Dieu. Il n'y a jamais de solde. Dieu est le même. Le seul filtre qu'il y a entre sa parole et ce qu'il accomplit, c'est nous. C'est le seul filtre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur nouveau. Alors, je rejoins ce qu'a dit Antonia. On a besoin d'un cœur nouveau. Alléluia. Vous voyez, c'était court, mais c'est vraiment trois encouragements, je vous les redonne. L'évangile est une puissance, souviens-toi que l'évangile est une puissance. Réalité ou fiction dans ta vie, cet évangile, cette puissance. Dieu au-dessus des circonstances et Satan qui veut nous atrophier. On ne s'en rend même pas compte. Alléluia. On va fermer les yeux quelques secondes. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit. Oh Jésus. Jésus. Que cette année 2016 soit une année nouvelle, soit une année de changement, Seigneur. On a entendu qu'on doit être une armée. Seigneur, nous voulons avoir des solutions pour notre pays. Nous voulons avoir des solutions pour notre quartier. Nous ne voulons pas juste être centrés sur nous, Seigneur. Nous voulons vivre la puissance de l'Évangile, Seigneur, au quotidien. Au quotidien, Seigneur, au quotidien. Seigneur, tu es le Dieu du maintenant. Tu n'es pas le Dieu du demain. Alors que j'ai prêché, Seigneur, tout le monde est déjà en train de se projeter sur la semaine prochaine. Le culte n'est pas fini, Seigneur. Tu es le Dieu du maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Saint-Esprit ? Saint-Esprit, on a chanté des belles choses à la louange. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Le Dieu du maintenant, du maintenant, du maintenant, quel que soit notre passé, Seigneur, tu viens nous transformer maintenant. Maintenant, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacune des faiblesses, Seigneur, qu'on peut rencontrer, Seigneur. Pour chaque personne présente ici ce matin, Seigneur, tu es le Dieu de la transformation. Tu ne nous donnes pas une béquille, Seigneur. Tu nous donnes une transformation, un cœur nouveau, Seigneur. Alors viens ce matin. Viens simplement encore une fois. Simplement, Seigneur. Tu transformes nos cœurs. Saint-Esprit, viens. Commence à penser à toutes ces choses qui dans ton cœur te font chuter, que ce soit dans ton caractère, que ce soit parfois dans ton corps. Peut-être la maladie t'écrase totalement. Peut-être que c'est tes émotions, t'es trop émotionnel. Peut-être que c'est ton intellectualité, t'es trop rationnel. Seigneur, viens comme qui tu es, Seigneur, révèle-toi. Et cible maintenant ça. Et tu dis, Seigneur, je veux changer, mais c'est maintenant que je veux changer. Je n'ai pas besoin de 6 mois, je n'ai pas besoin d'un an. C'est maintenant, Seigneur. La croissance spirituelle, ça ne veut pas dire qu'on va constamment changer et évoluer pour le mieux. C'est une maturité. C'est que tu peux régler les problèmes plus rapidement. Tu connais ton Dieu, tu sais comment il agit. Tu sais comment il travaille. Saint-Esprit, commence, Seigneur, maintenant dans les cœurs. Alléluia, Seigneur, alors qu'on est là devant toi, tu es le Dieu de puissance, tu es là dans ce lieu, tu es là dans ce lieu, tu es là dans ce lieu, Seigneur. Jésus, 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 réveille en nous, Seigneur, le feu, amène-nous l'oxygène, le Saint-Esprit, un esprit prophétique pointu dans cette église, Seigneur. Alléluia, Seigneur. La puissance de guérison maintenant, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. On ne va pas dire « je veux voir, je verrai ». On va dire « je vois maintenant ». Seigneur, je vois maintenant. Seigneur, je vois maintenant. Je vois maintenant, Seigneur. Alléluia, Jésus, commence, Seigneur. Encore quelque chose de nouveau pour cette année 2016. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, viens, 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 viens. Alléluia, sodarababara korosoromati le me koroson. Alléluia, Seigneur, qui darras.